Trois, c'est beaucoup. Le sommet Iran-Russie de cette semaine qui s'est déroulé en même temps que les exercices militaires du RIC dans l'emmerdement, en prévision d'une rencontre Xi-Poutine dans deux semaines, suggère une vision stratégique à évolution rapide pour les trois puissances eurasiatiques. La visite officielle en Russie du président iranien Ebrahim Raisi à l'invitation de Vladimir Poutine a généré l'une des images géopolitiques les plus étonnantes du 21e siècle. Raisi effectuant ses prières de l'après-midi au Kremlin. Plus que les heures de discussion approfondies sur les dossiers géopolitiques et géoéconomiques, énergétiques, commerciaux, agricoles, de transport et aérospatiaux, cette image restera gravée dans tous les pays du Sud comme un symbole approprié du processus continu et inexorable d'intégration eurasiatique. Raisi s'est rendu à Sochi et à Moscou, prêt à offrir à Poutine une synergie essentielle pour faire face à un empire unipolaire en déclin, de plus en plus enclin à l'irrationalisme. Il a été clair dès le début de ces trois heures de discussion avec Poutine, notre relation renouvelée ne devrait pas être à court terme ou positionnelle, elle sera permanente et stratégique. Poutine a dû se délecter des torrents de sens contenus dans l'une des déclarations factuelles de Raisi. Nous résistons aux Américains depuis plus de 40 ans. Pourtant, beaucoup plus productif fut le document sur la coopération stratégique entre l'Iran et la Russie que Raisi et son équipe ont présenté aux responsables russes. Raisi a souligné que cette feuille de route peut déterminer la perspective pour au moins 20 ans à venir, ou du moins clarifier l'interaction stratégique à long terme entre la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a confirmé que les deux présidents ont chargé leurs principaux diplomates de travailler sur la feuille de route. Il s'agit en fait d'une mise à jour d'un précédent traité de coopération de 20 ans signé en 2001 qui devrait initialement durer 10 ans. Et puis être prolongé deux fois de 5 ans. L'un des éléments clés du nouveau partenariat stratégique de 20 ans entre les deux voisins sera certainement un réseau de compensation basé en Eurasie. Conçu pour concurrencer SWIFT, le système mondial de messagerie entre banques. En commençant par la Russie, l'Iran et la Chine, RIC, ce mécanisme a le potentiel d'unir les nations membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, de l'Union économique eurasiatique, UEE, de lancer des BRICS et d'autres organisations régionales de commerce et de sécurité. Le poids géoéconomique combiné de tous ces acteurs en attirera inévitablement beaucoup d'autres dans les pays du Sud et même en Europe. La base existe déjà. La Chine a lancé son système de paiement interbancaire transfrontalier CIPS en 2015 en utilisant le yuan. La Russie a développé son système de transfert de messages financiers SPFS. Construire un système financier russe-chinois indépendant en reliant les deux ne devrait pas être un problème. La principale question est de choisir la monnaie standard, peut-être le yuan. Une fois le système mis en place, c'est parfait pour l'Iran qui souhaite vivement accroître ses échanges avec la Russie, mais reste handicapé par les sanctions américaines. L'Iran a déjà signé des accords commerciaux et participe à un développement stratégique à long terme avec la Russie et la Chine. Une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires s'organise ce dimanche à Bruxelles, malgré leur léger assouplissement vendredi. Avec jusqu'à 100 000 personnes attendues, les organisateurs évoquent la plus grande manifestation de tous les temps à Bruxelles. Des milliers de personnes venues de toute l'Europe se rassemblent dès 11h à la gare Bruxelles-Nord et vont se diriger vers le parc du Cinquantenaire où s'organise une manifestation contre les mesures restrictives instaurées pour freiner la propagation du variant Omicron, mais aussi pour stopper le mouvement de contestation contre le coup d'état vaccinal concocté par la Big Pharma. La situation est très tendue près des institutions européennes à Bruxelles. Le siège du service européen pour l'action extérieure, SOAE, a été pris pour cible. La police est en train d'utiliser du gaz lacrymogène. Les affrontements sont toujours en cours lors du rassemblement européen contre les mesures sanitaires dans la capitale belge. On ne peut plus rien faire si on n'est pas vacciné. On essaie simplement de récupérer notre droit de vivre, de bouger et d'être heureux, a déclaré une manifestante aux correspondants de Spoutnik présents sur les lieux. Les participants, plus nombreux que lors des précédents cortèges, portaient des pancartes critiquant le Premier ministre Alexander De Croo et même Emmanuel Macron ainsi que le passe sanitaire. Des drapeaux néerlandais, polonais, allemands ou encore roumains étaient visibles. 2022 sera l'année où nous réclamerons notre liberté, notre démocratie et nos droits de l'homme. Tous ensemble, nous allons écrire l'histoire et réaliser la plus grande manifestation à Bruxelles de tous les temps, expliquent les organisateurs qui espèrent 100 000 manifestants. Berlin a refusé à Tallinn d'autoriser la fourniture d'armes allemandes à Kiev. Selon le Wall Street Journal, la politique de l'Allemagne en la matière indiquerait des divergences sur le dossier ukrainien au sein de l'OTAN. La proposition estonienne de livrer à l'Ukraine des armes létales de fabrication allemande a été bloquée par Berlin, relate le Wall Street Journal. D'après le quotidien américain, il s'agit des exportations du D-30, un obusier qui tire un obus de 122 mm à environ 20 km. Ces armes ont été fabriquées à l'origine en Union soviétique et étaient stationnées dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Dans les années 1990, après la réunification allemande, Berlin a exporté ses obusiers en Finlande, qui les a ensuite transmis à l'Estonie en 2009. Le principe régissant les exportations d'armes allemandes est toujours le même, qu'elles proviennent directement d'Allemagne ou de pays tiers. Et aucune autorisation n'a été délivrée à ce stade, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand. L'Estonie ne perd d'ailleurs pas l'espoir de convaincre les autorités allemandes, précise le Wall Street Journal. J'espère que nous obtiendrons l'approbation de l'Allemagne. L'Estonie a montré que nous voulons aider l'Ukraine en termes pratiques de toutes les matières possibles, a déclaré au journal Kristo N. Vaga, 25 ans, conseiller du ministre estonien de la Défense. La position allemande sur le sujet des exportations d'armes létales vers l'Ukraine diffère de celle des États-Unis et de membres de l'OTAN en Europe, comme le Royaume-Uni, la Pologne et les Pays-Baltes, poursuit le média. Selon le Wall Street Journal, ce refus allemand à l'initiative estonienne pour indiquer l'absence de consensus absolu au sein de l'Alliance concernant l'assistance militaire à Kiev dans sa lutte contre une agression russe présumée. Interrogé par le média, Michael O'Hanlon de la Brookings Institution, un centre de recherche sur les politiques de Washington, considère que ce type de question serait un premier test pour le nouveau chancelier pour montrer que sa coalition peut répondre à une crise internationale. Si Olaf Scholz ne peut pas apporter ce genre de changement modeste à la loi, cela remet en cause ses capacités à jouer un rôle moteur dans la politique étrangère, a confié au journal l'expert américain. Si pour l'Allemagne les livraisons d'armes létales à Kiev ne semblent pas une solution adéquate pour résoudre la crise ukrainienne, c'est bien le cas des États-Unis, dont l'ambassade rapporte ce 22 janvier l'arrivée en Ukraine d'environ 90 tonnes d'armes létales. D'après la mission diplomatique américaine à Kiev, cette livraison démontrait l'attachement des États-Unis à la capacité de défense ukrainienne face à la menace russe. Plus tôt, les 17 et 18 janvier, des avions en provenance de Londres ont livré à l'Ukraine des systèmes anti-chars portatifs. Les armées françaises et grecques se rapprochent. Face à l'alliance tripartite Iran-Russie-Chine, alliance toute fraîche et en plus franche qui fera encore couler beaucoup d'encre, la France se met à quatre pattes. A-t-on la chance de vivre un remake de la guerre gréco-perse également réécrite par les orientalistes européens? OPEC sur 360 n'y va pas par quatre chemins en annonçant un partenariat stratégique entre les Gaulois et les Helléniques. Le 30 décembre dernier, le partenariat stratégique qui avait été signé 3 mois plus tôt à l'occasion d'un déplacement à Paris de Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre grec, est entré en vigueur. Dans les grandes lignes, et comme l'avait expliqué le président Macron au moment de sa signature, cet accord vise à accroître et à intensifier la coopération entre la France et la Grèce en matière de défense et de sécurité, avec l'objectif de protéger la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale des deux pays. La semaine passée, accompagnant son homologue grec Nikos Panagiotopoulos sur le site de Naval Group à Lorient, où sont produites les frégates de défense et d'intervention FTI, dont 3 exemplaires seront commandés par la Grèce, la ministre des Armées Florence Parly a fait valoir que ce partenariat stratégique est un atout majeur pour construire une défense européenne plus forte demain, et qu'il contribuera aussi au dialogue et à la stabilité régionale en Méditerranée, qui est un espace central pour la sécurité du continent européen et aujourd'hui soumis à des tensions croissantes. Si ce partenariat stratégique s'est concrétisé par la commande annoncée de FTI ainsi que par les livraisons des 6 premiers Rafales à la force aérienne grecque sur 24 au total, il restait encore à la mettre en musique au niveau opérationnel, explique OPEC sur 360. Et c'est ce qui vient d'être fait ce 21 janvier à Athènes avec la signature d'une feuille de route par le chef d'état-major des armées SEMA, le général Thierry Burgard, et son homologue grec, le général Constantinos Floros. Le partenariat stratégique franco-grec unit les deux pays sur le plan militaire. Dans le cadre des engagements pris auprès de l'UE et de l'OTAN, cet accord de partenariat vise à renforcer et structurer dans la durée les relations militaires de défense entre nos deux pays, relève l'état-major des armées EMA dans un bref communiqué, et d'ajouter qu'il permet de matérialiser la coopération militaire bilatérale franco-grecque au niveau stratégique et opérationnel. La France et la Grèce contribuant ainsi à la défense européenne et à la sécurité euro-atlantique en affirmant notamment leur attachement à la liberté de circulation aérienne et maritime dans le respect du droit international. Ces lignes directrices pour le renforcement de la coopération militaire franco-grecque permettront également aux forces armées des deux pays de renforcer leur culture stratégique commune et leur interopérabilité opérationnelle dans plusieurs domaines. Du côté de l'état-major grec, on précise que cet accord définit et précise la mise en œuvre de la coopération militaire franco-grecque dans les domaines des opérations, de la formation opérationnelle, de l'échange de personnel entre les institutions écoles et de formation militaire, de l'espace de la cybersécurité, de l'information, de la coopération des unités et des unités spatiales. Du côté de l'état-major grec, on précise que cet accord définit et précise la mise en œuvre de la coopération militaire franco-grecque dans les domaines des opérations, de la formation opérationnelle, de l'échange de personnel entre les institutions et écoles, de formation militaire, de l'espace de la cybersécurité, de l'information, de la coopération des unités et des unités spécialisées. Sans attendre la signature de cette feuille de route, les forces françaises et grecques ont d'ores et déjà mené toute une série d'exercices, le dernier en date ayant eu lieu le 9 décembre 2021. Au large de la Crète, la frégate multimission Frem Auvergne avait ainsi eu des interactions avec la frégate grecque Salamis, ainsi qu'avec des chasseurs F-16 et F-4 de la force aérienne hellénique. En outre, et si par le passé, une frégate grecque avait été aérienne hellénique. En outre, et si par le passé, une frégate grecque a été intégrée au sein du groupe aéronaval GAN, formé autour du porte-avions Charles de Gaulle, il est désormais question d'aller encore plus loin. Un sous-marin grec devant prendre part à la mission Clemenceau 2022 qui débutera au début du mois de janvier. Je vais vous raconter une histoire, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tourné en son bec, un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Oh bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre roman, qui débutera au début du mois de février, je vais vous raconter une histoire. Le Corbeau et le Renard. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon veut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jouera, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. » La Russie s'exerce militairement au large de la Grande-Bretagne. Les plus grands exercices militaires russes auront lieu juste au large des côtes de la Grande-Bretagne. En réponse aux actions provocatrices de Londres et aux menaces ouvertes contre la Russie, il a été décidé d'organiser les plus grands exercices militaires juste au large des côtes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. À en juger par la zone d'exercice militaire, il est situé à environ 500 km de la côte de la Grande-Bretagne et à environ 300 km de la côte de l'Irlande. Il ne s'agit pas seulement du déploiement de navires de guerre russes, mais aussi de l'utilisation d'avions anti-sous-marins à longue portée et de tirs de missiles. Cependant, ce n'est pas ce fait qui présente un danger beaucoup plus grand, mais le fait que la zone d'exercice militaire à grande échelle de la marine russe se situe dans la zone où se trouvent les câbles optiques sous-marins qui sont considérés comme des objets presque stratégiques. Londres n'a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet. Cependant, la situation du Royaume-Uni et en général de l'OTAN est déplorable puisque l'Alliance ne peut tout simplement pas interférer de quelque manière que ce soit avec les exercices militaires russes. Ils se déroulent de manière claire, conformément aux normes et règles internationales. De plus, les experts prêtent attention à la carte de profondeur dans le domaine des exercices militaires. En jugé par cela, des sous-marins nucléaires russes, des véhicules sous-marins spécieux et des équipements sous-marins spécieux peuvent être transférés dans la zone qui, en raison du manque d'équipement, le temps ne peut tout simplement pas surveiller.